France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'Iran toujours sous les bombes mais qui se dit prêt à poursuivre la guerre alors que les frappes israéliennes s'intensifient au Liban. La guerre au cinquième jour ne montre pas de signe d'essoufflement. On ira à Beyrouth, à Dubaï dans les prochaines minutes mais aussi en Espagne où le Premier ministre Pedro Sanchez est sans doute la voix la plus critique en Europe contre cette offensive lancée par Israël et les États-Unis. Donald Trump menace donc de cesser tout commerce avec l'Espagne. On parlera justement des conséquences économiques de tout cela avec vous. Bonjour Luc Chemelin.
Bonjour.
Parce que les marchés financiers sont très fébriles.
Oui, surtout en Asie où toutes les bourses ont violemment décroché la nuit dernière, notamment à Séoul, en Corée du Sud. Leur indice a perdu 12%. C'est une réaction évidemment à la forte hausse du prix du pétrole. Pour autant, le marché européen résiste lui ce matin. On vous expliquera pourquoi.
Absolument, on verra ça en détail dans les prochaines minutes avec vous. On verra aussi que le gouvernement promet des contrôles dans les stations-service pour s'assurer que les hausses des prix à la pompe resteront, je cite, raisonnables. Encore une grosse semaine de campagne et ce sera le premier tour des élections municipales. On ira au Havre où Édouard Philippe a bien l'intention de rester maire, mais son passé à Matignon ne semble pas jouer en sa faveur.
La retraite à 67 ans ?
Ça vous est resté en travers de la gorge, ça ?
Complètement. Il perd des points, là, hein, beaucoup.
On mélange pas le local et le national.
Tout à fait.
Donc réfléchissez bien.
Reportage au Havre à suivre et puis on s'intéressera au débat télévisé où les candidats ont plus à perdre qu'à gagner visiblement. La France a connu un mois de février historique sur le plan météorologique. Météo, c'est ce que dit Météo France qui fait le bilan de ces dernières semaines et les conséquences des crues sont encore très importantes. On va s'intéresser au secteur agricole avec nos invités à 13h30. Quelles cultures ont été les plus touchées? Quel impact sur les récoltes à venir et sur les prix? Et vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000. On n'oublie pas bien sûr les sorties ciné de la semaine puisque nous sommes mercredi. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Faut-il y voir un signe que l'Iran s'attend à des frappes plus intenses ces prochaines heures? Le régime iranien a en tout cas décidé de reporter la grande cérémonie d'hommage à son guide suprême. Les obsèques de l'ayatollah Khamenei devaient avoir lieu ce soir à Téhéran. Elles sont reportées selon la télévision d'État officiellement parce que les autorités s'attendent à une affluence sans précédent. Il faut dire que le régime iranien continue de bomber le torse et se dit prêt à poursuivre la guerre aussi longtemps que nécessaire. Les détonations pourtant continue de secouer la capitale et les Iraniens de France ont bien du mal à avoir des nouvelles de leurs proches. Il faut parfois se montrer inventif pour pouvoir communiquer, comme en témoigne cette jeune femme. Elle souhaite se faire appeler Gina, réfugiée politique. Elle vit à Grenoble depuis plusieurs années. Anna Bonne-Mazou-Carrer d'ici Isère l'a rencontrée.
Son portable sur les genoux, Gina ne quitte pas l'écran des yeux, de peur de manquer un appel. Le dernier avec sa sœur remonte à dimanche. Le lendemain de la mort d'Ali Khamenei.
Je lui ai dit félicitations, on a rigolé. Tout de suite, elle a dit oui, ça passe très bien pour mes fils. Avec son travail, ça veut dire que voilà.
Un code avec sa sœur. Obligée depuis son interpellation après la guerre des 12 jours en 2008, Gina est toujours recherchée par les Mollahs et sa famille subit interrogatoires et menaces régulières.
On avait vraiment envie de hurler, de partager ça, mais on ne pouvait pas dans les mots. Quand j'ai coupé, vraiment, j'avais larmes aux yeux. Même ça, on n'avait pas le droit de l'exprimer.
Depuis, plus de nouvelles. Internet est coupé et Gina craint que ses proches ne soient blessés dans les bombardements.
Du coup, pour nous, c'est un petit peu inquiétant aussi. Mais au fond, on sait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Pendant 47 ans, on a tout essayé.
Mais pour cette professeure d'anglais, la mort du guide suprême ne libère pas l'Iran des gardiens de la révolution.
Ça devient pire parce qu'ils sont blessés, ils se vengent, ils exécutent plus de gens. Et on attend des Occidentaux et des Américains, c'est que vous reconnaissiez l'opposition Reza Pahlavi.
Qui, d'après Gina, pourrait assurer la transition vers un nouveau régime politique.
Reza Pahlavi, l'héritier du Shah d'Iran qui vit en exil aux États-Unis et qui est l'une des figures de l'opposition iranienne. L'armée israélienne prévoit de poursuivre ses frappes contre l'Iran pendant au moins une ou deux semaines, disent à l'instant plusieurs médias israéliens qui citent des informations militaires. Les frappes donc qui se poursuivent en Iran mais aussi au Liban où le bilan fait désormais état de 11 morts. Israël élargit encore son appel à évacuer. Il concerne désormais tous les habitants d'une vaste zone dans le sud du Liban, tandis que les frappes ont redoublé d'intensité autour de la capitale. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter au sud de Beyrouth. Dans le fief du Hezbollah, les bombes sont tombées tout près du palais présidentiel. Est-ce que ça veut dire, Étienne, qu'aucun secteur désormais n'est sûr au Liban ?
Ah, clairement, il y a une forme de tension généralisée dans Beyrouth. L'activité est réduite, les écoles sont fermées. Et cette nuit, un quartier mixte, éloigné des fiefs du Hezbollah, a été pris pour cible. Un missile a frappé le deuxième étage de l'hôtel Confort dans le quartier de Baabda. D'après la municipalité, il y a 5 blessés. L'hôtel a été perforé. Les voisins pensent qu'un membre du Hezbollah a été ciblé. Cela entretient la crainte de la contagion. Les habitants des quartiers sunnites ou chrétiens redoutent maintenant de voir des frappes s'installer dans leur secteur pour viser des membres ou des soutiens de la milice chiite, alors qu'ils cherchent, eux, depuis le début, à se tenir à l'écart, explique Sami Sahamari. Il est membre du conseil municipal de Baabda.
Dans la première guerre, il y a une année, on était déjà distant de tous les événements et on était contre toute guerre qui entraîne le Liban dans une situation pareille. Et maintenant, déjà, c'est une raison de plus qu'on n'a aucune affaire liée avec l'Iran.
Et pour l'instant, le périmètre rouge des frappes est surtout au sud de Beyrouth, dans l'est du pays et près de la frontière sud, où l'armée israélienne aurait fait une incursion dans un village d'après une télé libanaise. Cette nuit et ce matin, il y a eu beaucoup de frappes dans ces secteurs.
Merci Étienne Monin, en direct de Beyrouth, où vous êtes l'envoyé spécial de France Inter. L'Iran, par ailleurs, poursuit ses frappes de représailles sur ses voisins du Golfe, alliés des États-Unis. Le Koweït vient d'annoncer la mort d'une fillette de 11 ans, tuée par la chute de débris dans une zone résidentielle. Les Émirats, le Qatar, affirment de leur côté avoir intercepté plusieurs missiles et plusieurs drones. On va tout de suite aller à Dubaï pour rejoindre Isabelle Labéry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter Dubaï, où le consulat américain a été pris pour cible. Dans la nuit, pas de victimes. Les autorités parlent d'un simple incident.
Et pourtant, le bruit du drone, son impact, puis les flammes, ces images impressionnantes ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Mais j'y suis retournée ce matin, tout était très calme, un jour ordinaire.
Dans le consulat des États-Unis, aucun signe visible de l'explosion qui a eu lieu hier. Grand bâtiment blanc,
comme si rien ne s'était passé.
Everything is normal.
Tout est normal.
Sorry, it is okay. As you can see,
il n'y a rien. Rien du tout. On va faire demi-tour. Vous allez voir par vous-même.
Julius, chauffeur de taxi, loue le système de défense antiaérienne des Émirats, l'un des meilleurs du monde.
Yeah, Dubai is not targeted.
Ce n'est pas Dubaï qui est visé, mais les intérêts américains. De toute façon, le gouvernement protège la vie des citoyens. Il en a fait sa priorité. Le pays est sûr.
Yeah, Dubai is safe.
L'attaque fait à peine l'objet de quelques lignes dans les médias officiels. Il est d'ailleurs interdit ici de diffuser ce genre d'images sous peine d'amende ou de prison. Thierry Adine fait de la gestion de patrimoine dans l'Émirat.
Je sais que certains influenceurs ont été rappelés à l'ordre et je trouve ça normal. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de pas créer non plus de panique pour rien. Imaginez que demain, tous les influenceurs disent « c'est la guerre à Dubaï », les magasins vont être pillés, les stations essence vont être pillées, les gens vont se bousculer, ça sera totalement débile. Et là, ça va créer un risque. Moi, je valide le gouvernement totalement sur ce sujet-là.
Contrôlés et rassurés, les autorités multiplient les messages sur le parfait fonctionnement des banques, des stocks de médicaments ou de nourriture.
Merci Isabelle Labéry, en direct de Dubaï, avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. La situation dans les pays du Golfe qui est suivie avec beaucoup d'attention par la France. C'est ce qui ressort de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Le porte-avions Charles de Gaulle a été envoyé en Méditerranée, a dit le président, notamment pour assurer la protection de nos alliés dans la région, les pays avec qui la France a des accords. Alors justement, Boris Sloumane, que disent ces accords avec la France et les Émirats ou encore le Qatar ?
Ces dernières années, la France a signé toute une série d'accords de défense avec ses alliés du Golfe. L'heure est venue pour Paris de les respecter. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, le texte prévoit que la France porte militairement assistance à son allié en cas d'agression. Et voilà pourquoi des avions Rafale ont d'ores et déjà mené des opérations de sécurisation du ciel au-dessus des Émirats. Au Qatar, idem, la France peut, après demande de Doha, s'engager à défendre le pays s'il est agressé militairement. En Jordanie, les engagements sont solides avec Paris, a rappelé dernièrement le président Macron. Les deux pays luttent côte à côte contre les groupes djihadistes depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, un certain nombre d'avions de combat français sont stationnés sur place. Enfin, dans le reste de la péninsule arabique, la France a signé de nombreux accords militaires, mais moins contraignants, avec le Koweït, Bahreïn ou encore Oman.
Reportage précision de Boris Loumane de la rédaction internationale. Tout cela sera au menu des discussions tout à l'heure, lors du nouveau Conseil de défense et de sécurité qui sera organisé ce soir. Et face à cette guerre, lancée par les États-Unis et Israël, l'Europe a bien du mal à rester unie. Emmanuel Macron, on en parlait à l'instant, a pointé du doigt dans son discours hier soir la responsabilité première de l'Iran, tout en parlant d'une opération conduite en dehors du droit international, ce que n'a pas dit en revanche l'Allemagne. Le chancelier Merz, reçu hier à la Maison-Blanche, s'est gardé de critiquer l'initiative américaine. De son côté, la Grande-Bretagne est dans le viseur des États-Unis, accusée de manquer d'esprit de coopération, tout comme l'Espagne, qui a refusé de laisser l'allié américain utiliser des bases militaires situées en Andalousie, ce qui lui vaut les menaces de Donald Trump. Le président américain dit vouloir cesser tout commerce avec l'Espagne, Mathieu de Taillac.
Après un communiqué hier soir pour rappeler les règles du droit international et du commerce extérieur qui dépend de l'Union européenne, c'est Pedro Sanchez qui a pris la parole ce matin lors d'une allocution télévisée. Par un discours de 10 minutes, le chef du gouvernement a apporté une réponse politique sans jamais citer les bases militaires de Rota et de Morón, ni nommer Donald Trump.
La position du gouvernement espagnol se résume en quatre mots. Non à la guerre. Les gouvernements sont là pour améliorer la vie des gens, pour apporter des solutions aux problèmes. Et il est absolument inacceptable que des dirigeants incapables d'assumer cette mission utilisent la fumée de la guerre pour masquer leur échec et remplir au passage les poches de quelques-uns, toujours les mêmes. Nous ne serons pas complices de quelque chose qui est mauvais pour le monde et qui va à l'encontre de nos valeurs et de nos intérêts simplement par peur des représailles d'un seul homme.
L'allusion est transparente. Après le dossier israélo-palestinien, l'Espagne se positionne à nouveau à l'avant-garde de l'opposition, cette fois-ci aux frappes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, et attend la solidarité européenne face à la menace américaine. Madrid, Mathieu de Taillac. France Inter.
La guerre au Moyen-Orient qui ébranle donc l'unité européenne, mais aussi les places financières. Bon, Luc Chemla, je vous ai déjà dit bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure, vous êtes de retour dans le studio pour nous parler donc du détroit d'Ormuz, toujours bloqué par les Iraniens, ce qui perturbe l'acheminement des hydrocarbures. Les cours du pétrole sont donc toujours très hauts, même si ça a un petit peu ralenti ce matin, et ça affole en tout cas, Luc, les marchés financiers dans certaines régions du monde.
Ah oui, surtout en Asie, où plusieurs pays ont une dépendance structurelle aux approvisionnements énergétiques qui transite par le détroit d'Ormuz, actuellement fermé. Toutes les bourses ont décroché la nuit dernière. La chute la plus spectaculaire est à Séoul, en Corée du Sud. Le Kospi a perdu 12%, sa pire séquence depuis la crise financière de 2008. Le Nikkei au Japon, moins 3,61%. En fait, ces deux indices ont été notamment plombés par le secteur de la tech, qui subit à la fois les craintes d'une augmentation de sa facture énergétique et la forte hausse du dollar depuis le début du conflit. D'ailleurs, à Wall Street aux États-Unis, après un important recul à l'ouverture, le Dow Jones a, disons, limité la casse hier soir, mais terminé quand même en baisse. Bonne nouvelle en Europe, où les marchés rebondissent ce matin. Après deux séances passées dans le rouge, le CAC 40 était tout à l'heure à 1,10%, donc dans le positif. Pareil à Milan, Londres ou encore Francfort. Ça va mieux, car les prix du gaz ont baissé après deux jours consécutifs de flambée.
Et comment réagit le marché de la dette, celui sur lequel empruntent les pays?
Eh bien, les taux d'intérêt des États européens, pourtant considérés traditionnellement comme des valeurs refuges en cas d'incertitude, sont en augmentation. Les marchés anticipent une hausse de l'inflation, ce qui réduirait les marges des créanciers. Ceux qui prêtent reportent dès maintenant cette possible augmentation pour être certains de compenser les pertes éventuelles. Hier, le taux d'intérêt français sur 10 ans augmentait légèrement à 3,40%. Pour comparer, avant la guerre, il évoluait autour de 3,20. Pour autant, le ministre de l'économie se veut rassurant. Si Roland Lescure reconnaît une tension, il écarte dans l'immédiat toute crise financière.
Merci Luc Chemla, service économie. Roland Lescure qui reconnaît que tout cela aura un impact sur les prix du carburant. Quelques centimes et c'est tout, dit cependant le ministre de l'économie, qui assure que des contrôles seront menés pour vérifier que la hausse des prix va rester raisonnable. Alors faut-il aller plus loin? Le Rassemblement national réclame une action de l'État, une baisse des taxes sur l'énergie, mais le gouvernement s'y oppose. Écoutez sa porte-parole Maud Bréjon lors du compte-rendu du Conseil des ministres tout à l'heure.
Les demandes formulées par Madame Le Pen et Monsieur Bardella, je pense notamment à un passage de la TVA à 5% pour l'ensemble des produits énergétiques, est complètement disproportionné. Je rappelle que c'est une mesure qui coûte 17 milliards milliards d'euros. Quand on connaît l'état des finances publiques et la nécessité de redresser les finances publiques du pays, alors même que cette guerre ne démarre que depuis quelques jours, c'est un peu politicien.
Des propos recueillis par Victoria Coussin. Et puis toujours dans l'actualité internationale à Gaza, cette fois, plus d'une centaine de camions d'aide humanitaire ont pu entrer hier dans le territoire palestinien grâce à la réouverture du point de passage de Rafah avec l'Égypte. C'est ce que dit le Croissant Rouge égyptien. Dans les camions, des produits alimentaires, du carburant ou encore du matériel médical. Et dans ce contexte où les yeux sont tournés vers le Moyen-Orient, comment faire campagne ici localement pour les élections municipales? C'est toute la difficulté pour les candidats en jour du premier tour. Le scrutin se rapproche. Il faut faire exister les enjeux locaux, ne pas se laisser parasiter par la campagne des présidentielles qui commence aussi à bas bruit. On verra ça dans un instant au Havre. En tout cas, c'est l'heure des débats télévisés dans les grandes villes de France, après Marseille et Lyon. C'est à Lille et à Nice que l'on débat aujourd'hui. Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour.
N'y vont pas forcément le cœur léger, les candidats, car c'est un exercice périlleux pour beaucoup d'entre eux.
Oui, parmi les risques, être attaqué et déstabilisé, comme Jean-Michel Aulas, soutenu par la droite et le centre à Lyon la semaine dernière. Autre danger, provoquer un tollé. Il y a deux semaines, la candidate d'hiver droite à Marseille, Martine Vassal, a suscité une vive polémique, reprenant à son compte la devise pétainiste « Travail, famille, patrie ». D'autres candidats refusent tout simplement de débattre avec leurs adversaires, comme Rachida Dati, qui porte la liste de la droite à Paris. Son argument, ne pas être la cible des autres candidats. Il n'y a pas d'échange possible quand il y a trop de participants, se défend l'un de ses proches. Un prétexte, tacle-t-on dans l'entourage du candidat de gauche, Emmanuel Grégoire. Elle ne connaît pas ses dossiers. En débat, elle serait renvoyée à ses mensonges et ses contradictions flagrantes sur tous les sujets, assène un soutien de Grégoire. Et c'est justement le risque de ce type de débat, d'après Stéphane Zumsteg, directeur du département politique opinion d'Ipsos BVA.
On retient davantage des faux pas ou des prestations ratées que l'on souligne qu'un débat ait permis à un ou une candidate de se révéler. Donc l'impact, il n'est ni positif ni négatif en général, mais il peut être très négatif en cas de faux pas.
Des faux pas qui ont coûté cher au RN lors des dernières législatives, avec des sorties de route en direct de la part de plusieurs de ses candidats.
Merci Claudia Bertram, service politique de France Inter. Et parmi les candidats qui vont jouer gros le 15 mars prochain, il y a Édouard Philippe qui fait campagne pour garder son fauteuil de maire, mais aussi pour asseoir sa stature nationale. L'ancien Premier ministre a assuré qu'en cas de défaite au municipal, il ne serait pas candidat à la prochaine présidentielle en 2027. De quoi motiver ses adversaires, d'autant qu'un sondage paru la semaine dernière montre que le fondateur du parti Horizon a du souci à se faire. Reportage Julien Nenny.
Bonjour madame.
Opération porte à porte, quartier Sainte-Cécile.
On fait partie de l'équipe de campagne d'Edouard Philippe.
Édouard Philippe, le nom fait grimacer Magali devant chez elle.
La retraite à 67 ans ?
Ça vous est resté en travers de la gorge, ça ?
Complètement. Il perd des points là, hein, beaucoup.
La proposition date de 2021, mais une colistière du maire tente de rattraper le coup.
On mélange pas le local et le national.
Tout à fait.
Donc réfléchissez bien.
Ah oui, non mais il a fait des super belles choses pour le Havre. Pour le coup, génial.
Pas suffisant pour voter pour lui, confie Magali. D'où ce sondage choc au Havre. L'ex-premier ministre est donné battu de peu au second tour par son rival communiste.
Pour une autre réunion.
Alors hier soir, en réunion de quartier, Édouard Philippe bat le rappel.
Et n'oubliez pas le 15 mars d'aller voter.
Et veut relativiser.
C'est une photo, un sondage. On espère qu'elle n'est pas trop floue. Et il y a peut-être des sondages qui sont un peu plus flous que d'autres. Mais enfin, c'est une photo. Une photo, ça dit pas un film.
Ce mauvais sondage, il va remobiliser nos électeurs. C'est pas plus mal, veut croire une proche du maire. Danger bien identifié par le candidat communiste, Jean-Paul Lecoq, qui observe de près la campagne d'Édouard Philippe.
Là, il est omniprésent, il est sur tous les terrains. Et nous, notre équipe, on leur a expliqué qu'il fallait être partout, porte à porte, et se surmobiliser. Quoi.
Le même sondage place aussi Franck Keller au second tour. Soutenu par le RN, ce Parisien ne se déplace au Havre que le week-end.
Par contre, demain, maire du Havre, je serai maire à temps plein, à temps complet, 7 jours par semaine, oui, tout à fait.
Façon de pointer du doigt Édouard Philippe, s'il est réélu, lui quittera sa ville pour se lancer dès avril dans la course à l'Élysée.
Reportage au Havre, signé Julien Nenny. Cette campagne se mène dans des conditions difficiles pour les journalistes qui la couvrent. L'Alliance de la presse d'information générale, qui regroupe près de 300 quotidiens français, dénonce dans une tribune la polarisation du débat public qui fait de la presse le bouc émissaire de toutes les colères. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont fait l'objet d'attaques récurrentes et croissantes, disent les signataires de ce texte commun. Dans le Périgord, c'est une reprise qui sonne comme une défaite. La justice a validé en début de semaine la reprise des papeteries Condat par le groupe français SPB qui prévoit de ne garder que 10% des emplois, 20 salariés sur les 220 que compte le site. C'est donc la fin d'une époque dans la commune du Lardin-Saint-Lazare où les papeteries centenaires ont compté jusqu'à 1200 emplois. Alors dans certaines familles, on a été Condat de père en fils, comme chez les Garcia rencontrés par Marie-Astrid Guégan.
Christian s'allume une cigarette et en propose une à son fils. Le retraité a travaillé 40 ans à Condat.
Vous avez pu aller au bout de votre carrière ?
Tout à fait.
Ouais. Lui, non ?
Et lui, non, ouais, ouais. C'est triste, ça me désole totalement.
Voir son fils, Emmanuel, rejoindre les papeteries après lui, après son beau-père, après son grand-père, c'était une fierté.
Ah ben, c'était toute ma vie, on a fait toute notre carrière là, on a fait vivre nos familles grâce aux papeteries.
À 52 ans, Emmanuel va être licencié après plus de la moitié de sa vie dans l'entreprise. Au-delà du boulot, tout son quotidien a toujours été rythmé par l'usine.
Quand on était gamin, ça nous a permis de faire des stages de tennis, de découvrir le ski, de pouvoir aller à la piscine... de rencontrer des personnes d'une autre commune. C'était tout ça qu'on a un peu été biberonnés aux papeteries de Condat.
Surtout qu'ils ont été habitués parce qu'on faisait les 5-8. Donc dans la journée, on dormait. Et sa mère disait, faites pas de bruit, papa dort. Hein, c'était le truc.
Condat pour ses familles, c'est aussi un paysage familier.
Puis quand on habitait en face de l'usine, la nuit, il y avait les soupapes de vapeur qui lâchaient. Il y avait les odeurs, le bruit, ça faisait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Le fils et le père se regardent, les yeux humides mais sans larmes. Chacun tire sur sa cigarette.
Marie-Astrid Guégan, ici Périgord. À La Rochelle, c'est un collégien de 13 ans qui a porté des coups de couteau à un camarade ce matin dans un collège. L'agression a eu lieu vers 9h30 pendant un cours. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave, mais son pronostic vital n'est pas engagé. La motivation reste à confirmer, dit le parquet de La Rochelle. Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Il ne présente pas d'antécédents judiciaires, précise le parquet. Deux nouvelles interpellations dans l'enquête sur la mort de Quentin Derangue. Deux suspects âgés d'une vingtaine d'années arrêtés dans le Rhône et dans l'Aube. Ils ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et association de malfaiteurs soupçonnés d'avoir participé au passage à tabac du militant identitaire à Lyon le 12 février dernier. En Seine-Saint-Denis, c'est un enfant qui est activement recherché. Madoua, 4 ans, porté disparu depuis maintenant une semaine. Mercredi dernier, ce petit garçon atteint d'un trouble autistique a échappé à la vigilance de sa mère alors qu'il se promenait dans un parc à Neuilly-Plaisance sur les bords de Marne. D'importants moyens policiers ont été déployés sur place. Un appel à témoins a été lancé. Les habitants se relaient pour coller des affiches, pour mener des battues et pour tenter de retracer le parcours de l'enfant. Manon Lombard-Brunel.
Depuis une semaine, Iliès connaît le chemin par cœur.
Dans ce parc-là, là, dans ce petit parc. Et là, on le voit par là. Partir par là.
Le long des bords de Marne. C'est ce que montrent les images captées sur une centaine de mètres par les caméras de vidéosurveillance. On y voit le petit garçon. Et puis plus rien.
On a cherché un peu partout, on cherche. On a cherché même dans les locales à poubelles. On s'est glissé en dessous, c'est du gravin, il y a de la terre, il y a des cailloux, il y a de tout. On cogite tous en fait, là. On est en train de se dire, mais l'espérance de vie du petit est en jeu en fait.
Et selon lui, chaque détail peut faire la différence. Le long du parcours, la vie de recherche est distribuée partout.
Est-ce que vous voulez une affiche pour mettre
ouais,
là
où vous habitez ? Je vais la prendre, bien sûr.
Dienaba a collé la photo du petit garçon sur son sac à dos.
On se met à la place de la famille, c'est dur. C'est dur, surtout quand on a des frères, sœurs. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des frères. J'aurais pas aimé. Et j'aurais aimé voir autant de monde pour chercher la personne.
Et pour certains, les nuits sont courtes. Olivier a participé aux toutes premières battues. Dans sa main droite, un long bout de bois. Il lui sert de bâton de marche, très utile aussi pour remuer les feuilles.
On fait des nuits blanches, après le travail on vient, on cherche, on a fait toute la Marne aux alentours. On va peut-être aller au Bordeaux, enfin sur la Seine ce soir. On a toujours un peu d'espoir, mais on commence aussi à penser au pire.
Et plus les jours passent, plus l'angoisse monte. Mais Olivier, comme les autres l'assurent, ils ne lâcheront pas.
Reportage Manon Lombard-Brunel. Vous l'avez constaté, Météo France le confirme. Aujourd'hui, la France a connu un mois de février historique sur le plan météo. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Météo France a présenté tout à l'heure le bilan de cet hiver hors norme avec des crues historiques, 3 tempêtes, un enneigement exceptionnel et puis aussi des trompes de pluie.
Oui, cet hiver figure parmi les 10 hivers les plus arrosés depuis 1959 avec un mois de février historique, explique Christine Bern, climatologue chez Météo France.
Le mois de février a été le premier mois de février le plus arrosé de notre histoire météorologique avec carrément, si je peux dire, une anomalie de 100%. C'est-à-dire qu'on a une pluviométrie le double de ce qu'on a attendu pour un mois de février.
Alors la conséquence, ce sont des crues exceptionnelles de la Garonne, la Maine, la Loire ou encore la Charente. Depuis le mois de décembre, il y a eu 49 jours de vigilance orange ou rouge aux crues. C'est un record depuis la création de Vigicru, le service qui surveille les cours d'eau depuis 20 ans. Sa directrice, Lucie Chadourne-Facon.
Le caractère vraiment non ordinaire de la situation, c'est la durée de l'épisode et son étendue géographique. Sur janvier et février, on a eu 72 rivières en vigilance orange et 7 en rouge. Ça signifie plus d'un quart des rivières qui ont été placées en orange ou rouge.
Et puis ce mois de février restera aussi dans les annales météorologiques parce qu'il a fait anormalement chaud. C'est le deuxième mois de février le plus doux depuis 1900.
Et tout cela a des conséquences sur le secteur agricole. On va en parler avec nos invités dans quelques minutes. Merci Sandy Dauphin. Tout de suite le cinéma.
Le monde se divise en deux catégories.
Hasta la vista, baby.
Toi, tu creuses. Splendid.
Et c'est avec vous Alexis de Meyer, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors on commence avec un film d'animation sur les enfants soldats, ça s'appelle « Allah n'est pas obligé ».
Je m'appelle Biraïma, j'ai 12 ans, j'ai peur de rien du tout. Je veux vraiment, vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit.
Les guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone subies par un jeune orphelin guinéen enrôlé dans des groupes armés particulièrement sanguinaires. Un sujet de film aussi puissant que piégeux, mais le réalisateur Zaven Nadjar s'en sort remarquablement. Les dessins et l'animation sont de qualité, le scénario est rythmé et les personnages, pour la plupart des anti-héros, resteront longtemps gravés dans votre mémoire. Ajoutons à ça une bande-son soignée et un casting de voix très convaincant de Thomas Njijol à Annabelle Langrone en passant par le jeune rappeur ivoirien SK07. Allah n'est pas obligé est le film d'animation à voir actuellement. Pas par les plus jeunes en revanche, car l'ultra-violence des enfants soldats n'est pas éludée, mais à partir de la fin du collège, c'est vraiment à ne pas rater.
Alors vous nous recommandez aussi, Alexis, une romance britannique un peu trash.
Oui, là encore, un film à déconseiller aux plus jeunes de nos auditeurs, car les scènes de sexe sadomaso sont, comment dire, frontales. Pour son tout premier long métrage, le jeune Britannique Harry Lytton frappe un grand coup. Pillion est une œuvre aussi singulière que puissante, très trash mais aussi très complexe. Le héros Colin est un policier municipal qui vit encore chez ses parents. Ce jeune homme introverti est entraîné dans une relation de domination-soumission par le charismatique et mystérieux Ray, un motard interprété par Alexander Skarsgård. Sans rien édulcorer des humiliations subies par Colin, la mise en scène de Harry Lytton se garde bien de juger les protagonistes tout en proposant de belles scènes de cinéma.
Voilà pour ce film Pillion. Vous avez été moins convaincu en revanche par La Maison des Femmes.
Le thème de cette chronique sociale est pourtant très intéressant puisqu'il s'agit d'une immersion très réaliste au sein de la Maison des Femmes de Saint-Denis, cette structure d'accueil pour les femmes en difficulté créée il y a 10 ans.
Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi du coup les patientes sinon on ferme ?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire. Croyez-moi.
Voilà, c'est Karine Viard qu'on entend dans le rôle de Diane, la directrice de cette maison des femmes. Également au casting, Laetitia Deutsch ou Laïa Amamra ou encore Juliette Armanet. Mais une jolie distribution et de bonnes intentions ne font pas un grand film. Et l'absence d'inventivité formelle couplée à de gros problèmes de dialogue et de direction d'acteurs plombe ce projet pourtant prometteur, sans compter une forme de paternalisme dans la façon dont sont filmées les femmes prises en charge.
Et puis il y a encore plein d'autres choses à l'affiche ce mercredi.
Alter Ego, la comédie avec deux fois Laurent Lafitte puisqu'il joue Alex et Axel, son sosie presque parfait. The Bride, un thriller de science-fiction mis en scène par la comédienne américaine Maggie Gyllenhaal. Et Jumpers, le nouveau dessin animé Pixar sur une ado passionnée par les animaux qui se glisse dans la peau d'un castor.
Merci Alexis de Meyer, spécialiste cinéma à la rédaction de France Inter. Et puis si vous préférez les stades aux salles de ciné, sachez que les quarts de finale de la Coupe de France de foot se poursuivent aujourd'hui. Lorient face à Nice, 20h30, Marseille contre Toulouse, 21h. Hier soir, c'est Strasbourg qui a décroché le premier billet pour les demi-finales en battant Reims 2-1, 13h28. Restez avec nous sur France Inter. Dans les prochaines minutes, on a rendez-vous avec les prévisions météo de Céline Dacosta. Et puis on va parler justement des conséquences des phénomènes climatiques de ces dernières semaines. C'est l'heure d'évaluer les dégâts, de chiffrer le manque à gagner dans les exploitations agricoles qui ont été touchées, notamment par les crues. On en parle avec nos invités et avec vos questions nombreuses, j'espère. 01 45 24 7000. Notre feuilleton toujours dans les rayons du bazar d'électricité, ce très vieux magasin parisien, véritable institution dans le milieu des luminaires, notamment grâce à son atelier réparation. On va s'y inviter grâce à Alexis Morel. 13h50, c'est la France. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Céline.
Du 1 Hebdo avec nous, tout comme toi, tous les mercredis. Et aujourd'hui, Eric, vous revenez sur la question iranienne par le biais d'un petit village français.
Et oui, ce n'est pas le petit bout de la lorgnette, mais un exercice de mémoire. L'ayatollah Khomeini, avant de devenir le guide suprême de la révolution en Iran, trouva refuge pendant quelques mois, entre fin 1978 et début 1979, dans une petite commune des Yvelines, Naufle-le-Château, qui n'en demandait pas tant.
Mais bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour Céline.
C'est une chanson qui est à votre micro aujourd'hui.
Armand Pénicaud, membre du groupe Papouze, un groupe français qui chante en anglais, qui va nous faire découvrir un autre groupe, Wilco. Eux, ce sont des Américains. Ils parlent de l'Allemagne. La chanson s'appelle Impossible Germany.
Merci à tous les deux. À tout de suite.
Je suis né en Palestine, une terre en larmes et en sang. Je suis aujourd'hui moine à Bethléem. Le prieur de Bethléem, le nouveau roman de Yasmina Kadra, aux éditions Flammarion.
S comme S-Line, S comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, la finition iconique Audi S-Line est offerte sur une large sélection de modèles. Plus qu'une finition, une signature emblématique et sportive. Profitez-en dès aujourd'hui sur l'Audi A3 Sportback hybride rechargeable ou l'Audi Q6 Citroën. Réservez votre essai personnalisé sur audi.fr.
Finition S-Line offerte pour tout achat ou location longue durée d'un modèle éligible dans le réseau participant, voire conditions sur audi.fr.
Pensez à covoiturer.
La météo tout de suite.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et c'est la journée la plus ensoleillée de la semaine.
Oui, un petit peu comme mercredi dernier finalement, avec des températures qui étaient bien plus élevées. Aujourd'hui, le soleil est bien présent sur l'ensemble du territoire et plutôt généreux, mais on a toujours, sur les régions les plus au sud, en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon, un soleil qui est assez voilé, avec ses poussières du Sahara, qui avec les vents forts en altitude continuent de survoler le pays. C'est le cas depuis lundi. Le pic de ces particules est prévu entre aujourd'hui et demain. On a également un petit peu plus de nuages sur les Pyrénées, sur le Languedoc-Roussillon et la Corse avec quelques gouttes possibles et un vent bien présent jusqu'à 90 km à l'heure pour le vent d'autan sur les plaines toulousaines.
Et la douceur se maintient.
Oui, une chaleur modérée notamment par la présence de ces poussières désertiques, mais on a quand même des valeurs dignes d'un mois de mai sur la moitié nord selon Météo France avec 16 degrés à Strasbourg, 17 à Cherbourg, 18 à Brest, Grenoble ou encore Montauban et Marseille, 19 à Paris et Bordeaux, jusqu'à 20 degrés attendus au meilleur de la journée pour Biarritz et Ajaccio.
Merci Céline Dacosta.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Et ces températures douces, le retour du soleil, cette ambiance printanière, tout cela nous frappe d'autant plus après ces semaines de pluie intense et ces crues historiques qui ont eu notamment des conséquences très fortes dans le secteur agricole. On va en parler tout de suite avec nos invités. Bonjour Daniel Sauvêtre.
Bonjour.
Et bienvenue dans le studio de France Inter. Vous êtes arboriculteur en Charente, président d'Interfel, qui est l'interprofession des fruits et légumes. Karine Duc est également en ligne avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, coprésidente de la coordination rurale. Alors on va peut-être faire un constat tout d'abord, peut-être avec vous Karine Duc, dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que vous avez pu faire le bilan des dégâts maintenant causés par les tempêtes, les crues maintenant justement, que l'eau quitte un peu les champs et les parcelles?
Alors le bilan ne peut pas être réalisé, il est en cours, hein. On est en train... Au-delà de porter secours aux structures, aux personnes qui ont besoin de déblayer, nettoyer, ce que l'on s'acharne à faire depuis 15 jours maintenant avec pompiers militaires et sécurité civile, on est également en train de passer dans les exploitations agricoles pour faire des évaluations, et notamment avec la DDT, pour justement voilà quantifier, évaluer et puis... être au plus juste en termes de relevé de situation. On sait déjà que il y a à peu près 1000 exploitations agricoles sur le département qui sont touchées, tempête, inondation, les deux confondus. Et donc, l'heure des chiffrages, malheureusement, est assez longue. Et pour l'instant, On ne peut pas le faire avec précision.
C'est encore trop tôt, Daniel Sauvêtre. Vous êtes d'accord avec ce constat, finalement?
Oui,
il y a
dire, Karine,
des parcelles qui ne sont pas encore accessibles.
En effet, oui, c'est trop tôt. Ce que l'on sait, c'est que les maraîchers et les arboriculteurs ont travaillé énormément pour réparer les dégâts, puisque la tempête Niels a provoqué des dégâts sur les serres, sur les arceaux, enfin, sur tout le matériel. Et moi, l'information que j'ai, c'est que, comme vient de le dire Karine, le travail a été fait. Et les maraîchers nous disent qu'ils sont prêts, quoi, et que le beau temps revient et que, après avoir subi beaucoup de dégâts, ils ont remis les cultures. J'avais les friziculteurs en ligne tout à l'heure qui me disaient qu'ils seraient là avec un peu moins de précocité que l'an passé, mais que la récolte serait bien là.
On va parler de la suite justement. Mais est-ce qu'on sait quel type de cultures ont été le plus touchées par les épisodes de ces dernières semaines, Daniel Sauvêtre?
Bon, moi, mon domaine, c'est le maraîchage et l'arboriculture. Donc, c'est principalement toute la façade atlantique, le sud-ouest. Et donc, c'est principalement les friziculteurs, les producteurs d'asperges. On avait du côté de la Bretagne et de la Normandie des soucis avec le poireau et avec les choux-fleurs. Voilà, on a toutes ces les carottes aussi qui ont été impactées avec des semis qui sont retardés. Pour autant, la carotte primeur va pouvoir se récolter normalement maintenant puisqu'elle était semée avant qu'il y ait les intempéries. Voilà, tout a été un peu bousculé, mais maintenant le beau temps revient, vous l'avez dit, donc on croise les doigts pour que les choses redeviennent plus normales maintenant.
Vous parliez d'un millier d'exploitations dans le Lot-et-Garonne, Karine Duc. Même question, est-ce qu'on sait quelles cultures sont les plus touchées chez vous?
Alors, notre département est connu pour avoir 80 productions différentes. Donc, on est effectivement sur... Je rejoins monsieur Daniel sur Sauvêtre. Voilà, pour l'évaluation fruits et légumes. On a en plus, nous, dans notre secteur, on est un secteur de semences. Donc, on a effectivement des grandes cultures et des contrats de semences qui ont pu être touchés par les inondations, notamment et le retrait des eaux qui n'a pas pu être réalisé rapidement. Cette crue est notamment connue maintenant. Et ces dégâts sont là parce que les eaux se sont retirées avec beaucoup de délais. On a eu des dégâts par le vent également sur des cultures pérennes, des arbres qui se sont tombés sur certains rangs de vignes. On a aussi quelques kiwis qui sont touchés par-ci par-là. Voilà, c'est assez finalement global en termes d'impact ici. Oui. Mais je dois dire que on essaie encore cette semaine de sauver le plus possible de parcelles. Et j'ai envie de vous dire, on a nos techniciens aussi qui sont appliqués et qui vont voir les agriculteurs pour essayer d'appliquer, on va dire, les bonnes pratiques pour essayer de sauver le maximum de choses. Et on verra dans l'année culturelle ce qui arrive à s'en remettre, ce qui arrive à produire réellement, et ce qui prend du retard et ceux qui n'y arriveront pas.
On est à pied d'œuvre. On entend que vous tous les deux, vous êtes sur le même message. On parlait du retour du soleil, de cette précocité aussi, ce printemps quasiment qui est là, avec quelques semaines d'avance. Daniel Sauvêtre, est-ce que justement ça peut avoir un effet, ce changement de température aussi brutal?
Bon, en fait, la précocité pour l'arboriculture, on l'évalue à peu près une semaine. Donc c'est pas énorme pour l'instant, mais ça peut s'accélérer si jamais les températures restent hautes. Ça peut aussi baisser dans quelques jours. Vous voyez, non, mais aujourd'hui, l'état des lieux, c'est une semaine de précocité. Pour les fraisiculteurs, c'est un peu différent, puisqu'ils cultivent sous serre et ils ont eu moins d'ensoleillement parce que il y avait beaucoup de pluie, et donc eux sont plutôt un retour quasi à la normale parce que depuis 2 ou 3 ans ils étaient plutôt précoces. Vous voyez, donc pour l'instant rien de très anormal.
Ouais.
En revanche, on regarde attentivement la météo qui vient.
Le risque, c'est le gel qui
fait
son...
Alors les risques de gel, alors évidemment on allonge d'une semaine le risque de gel. On a 2 mois qui vont nous inquiéter. Vous savez que la protection contre le gel, c'est par l'aspersion qu'on a réellement une vraie capacité à contrôler le gel. Donc on a 2 mois devant nous, et je peux vous dire que quand les arboriculteurs voient toute l'eau qui est passée, ils auraient bien aimé en mettre un peu de côté pour pouvoir protéger des surfaces un peu plus grandes, mais vous savez qu'il est difficile aujourd'hui de stocker l'eau.
Est-ce que tout ça va avoir un effet sur les prix? Est-ce qu'on peut déjà le mesurer?
Difficile à dire, vous savez que les prix pour les fruits et légumes frais, c'est l'offre et la demande. Donc aujourd'hui, il faut regarder non seulement la situation en France, mais il faut regarder également ce qui se passe dans le reste du Sud, parce qu'en fait, l'Italie a été touchée, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, donc aujourd'hui, il est difficile de voir quels vont être le rapport offre-demande. Moi, ce qui me satisfait, c'est d'entendre que ça soit les producteurs d'asperges, les fraisiculteurs, producteurs de carottes, me dire ok, on a beaucoup travaillé, on a eu des dégâts, mais on est en capacité de d'avoir une offre qui, vous savez qu'on sort d'une période où les prix ont été plutôt bas. Le chou-fleur, le poireau, les producteurs sont même en très grave difficulté. Donc la perspective, c'est peut-être d'être comme l'an passé. Mmh.
Le dispositif de calamité agricole a été déclenché pour indemniser les agriculteurs particulièrement touchés. Ça, c'est ce qu'avait dit la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Chez vous, dans le Lot-et-Garonne, Karine Duc, est-ce que les aides sont déjà arrivées ou est-ce qu'elles ont été demandées, en tout cas, par les exploitants concernés?
Alors, les aides ne sont pas du tout arrivées. Justement, au-delà du soutien et au-delà des interventions de terrain, s'ouvre aujourd'hui le volet économique sur lequel il faut impérativement que l'État soit au rendez-vous. Notamment, alors on a fait, bien entendu, on a activé, on a demandé tous les leviers qui sont à notre main aujourd'hui, c'est-à-dire... on a déjà eu la reconnaissance de catastrophe naturelle, donc une partie des productions, des ouvrages qui sont assurés pourront être, on va dire, mieux considérés par les assureurs. Mais après, il y a tout ce qui concerne les calamités, pertes de fonds, pertes de récolte et les ISN qui ne sont pas aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas de nouvelles. Ces évaluations sur le terrain sont là aussi pour... alimenter ce dossier-là qui devra aboutir forcément, mais qui devra être forcément aussi complété par une enveloppe d'urgence exceptionnelle, parce que les dispositifs actuels ne suffiront pas et des personnes passeront au travers de la raquette avec certitude, on le voit déjà sur le terrain.
Daniel Sauvêtre, sur ce point.
Oui, en fait, ça a été très bien dit par Karine, il y a quand même peu de compensation possible et ça sera certainement très insuffisant par rapport aux dégâts subis par tel ou tel.
Mais ça mettrait des exploitants matériel, vraiment en difficulté.
Oui, non, mais là il faut pas nier que tel ou tel maraîcher ou tel arboriculteur qui a eu des vrais dégâts, la couverture par les calamités sera très insuffisante, les mesures exceptionnelles, donc il faut vraiment savoir que les compensations ne vont pas être suffisantes pour les dégâts subis par ceux qui ont été fortement touchés.
On a beaucoup parlé de la nécessité de s'adapter, de construire différemment les villes, les digues, pour mieux faire face aux inondations à venir, face à ces crues historiques, mais qui ne sont pas les premières. On avait vu le Nord-Pas-de-Calais, le Finistère aussi, dans d'autres périodes. Est-ce que cette réflexion, Daniel Sauvêtre, elle est menée aussi dans le monde agricole?
Oh oui, elle est menée dans le monde agricole. En fait, chacun, quand il implante une vigne, un verger, se préoccupe de savoir quelle est l'historique des crues. Donc, tout ça est pris en considération. Et vous savez que l'agriculture, l'arboriculture, le maraîchage... L'objectif, c'est de se protéger autant que faire se peut des aléas climatiques. On se protège de la grêle, on essaie de se protéger de la grêle, du gel, bien entendu. Mais pour le gel, vous savez qu'il faudrait être en capacité de pouvoir irriguer plus. Donc, la meilleure assurance, c'est de se protéger physiquement contre les aléas climatiques. Et c'est toujours le projet qui devient presque plus important aujourd'hui, puisque vous le rappelez, les accidents climatiques sont peut-être plus violents qu'ils n'étaient. Donc, on a encore plus besoin d'investir pour se protéger contre les aléas.
Et est-ce que ça, c'est pris en compte dans les contrats d'assurance, par exemple?
Les contrats d'assurance, ils couvrent le dur, ils couvrent une serre, ils couvrent un tunnel, mais en fait, aujourd'hui, les maraîchers me disaient que, finalement, leur culture, ils n'arrivent pas à les assurer. Les assurances récoltes peuvent concerner un peu l'arboriculture, mais ce sont des coûts quand même relativement élevés. En fait, non, il n'y a pas vraiment d'assurance miracle pour protéger le maraîcher ou l'arboriculteur pour des pertes de récolte.
Karine Duc, est-ce qu'on s'inquiète effectivement davantage de ces événements climatiques qui se répètent, comme le disait Daniel Sauvêtre? Est-ce qu'on se dit, voilà, là c'était les crues, cet été ça va peut-être être la sécheresse?
Alors, l'inquiétude réelle du moment, c'est qu'on a en 2021, 5 digues sur mon département qui ont cédé. Cette année, on en a 13. L'urgence aujourd'hui, pour ne plus mettre en danger les populations et les biens, les exploitations agricoles et l'ensemble du tissu économique, c'est de procéder aux réparations et de veiller à ce que ces digues soient entretenues. Je pense que sur l'entretien de ces ouvrages-là, il y a quelque chose qui y a un dysfonctionnement véritablement, puisque sinon on n'en serait pas là. Et il faut effectivement réviser, et c'est le sujet que j'ai lancé aussi, réviser globalement le sujet des inondations. On accepte, en vivant en vallée de Garonne, les inondations, on vit avec, c'est comme ça, depuis des générations. Sauf que on a quand même délaissé un petit peu certains entretiens, au détriment, l'entretien a été moins fait au bénéfice de certaines études et au bénéfice d'autres dépenses et qui sont peut-être, on va dire, moins essentielles. Et donc, il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel, sur la construction aussi de certains barrages en amont pour essayer de retenir un petit peu d'eau, parce que de toute façon, l'eau, quand elle a décidé de passer, elle passe. Et il faut redonner les moyens aux riverains localement de reprendre possession de ces digues et de pouvoir faire face aux crues du mieux possible, en sachant très bien que les inondations font partie de notre vie, mais on peut quand même en limiter un petit peu les inconvénients et les dégâts.
Je voudrais qu'on dise un mot, Daniel Sauvêtre, aussi de la crise géopolitique. Au-delà de ces questions climatiques que l'on évoque depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé évidemment ces derniers jours du blocage du détroit d'Ormuz, qui a un impact pour l'acheminement des hydrocarbures, mais est-ce que c'est un impact aussi pour les exportations agricoles, vous qui présidez l'interprofession des fruits et légumes?
Ben oui, nous avons fait le point hier, on a 200 containers qui sont sur l'eau en ce moment, à destination du Moyen-Orient, des pommes principalement, et les exportateurs nous disent qu'ils ne savent pas si jamais ces containers pourront être déchargés, les armateurs leur proposent de les destiner ailleurs, enfin, donc on est vraiment sur un vrai souci avec une augmentation des primes d'assurance. On faisait qu'un conteneur, ça coûte 2000 euros pour l'envoyer en Moyen-Orient. Et puis, lundi matin, la mauvaise nouvelle est tombée. Les armateurs rajoutent 4000 euros. Vous voyez, ça fait trois fois le prix, alors que les conteneurs sont déjà sur l'eau. Le Moyen-Orient est demandeur, puisque le Moyen-Orient n'a pas de fruits, n'a pas de légumes. On lui achète du pétrole, on lui exporte des fruits et des légumes. Et aujourd'hui, ils sont très demandeurs, mais l'acheminement, alors c'est vrai pour les conteneurs de pommes, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément de bateaux qui étaient bloqués pour tout type de marchandises dans le golfe Persique et qui ne peuvent pas passer à Aden puisque les Houthis ont repris le combat aux côtés des Iraniens. Donc en fait, on a deux étranglements, le détroit d'Ormuz et puis Aden qui sont bloqués. Situation extrêmement difficile. Alors nous sommes qu'au cinquième ou sixième jour. Attendons de voir ce qui va se passer. Mais on a entendu le président de la République qui allait sécuriser les voies commerciales. Tout cela est très attendu puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes pour tous ceux qui ont de la marchandise en mer.
On voit en tout cas que vous êtes tributaire de la situation géopolitique et des aléas climatiques. Merci de nous avoir présenté en tout cas toutes ces difficultés et aussi les pistes de solutions. Daniel Sauvêtre, vous êtes arboriculteur en Charente, président d'Interfel, et Karine Duc, présidente de la Chambre d'agriculteurs du Lot-et-Garonne. Merci à tous les deux. Tout de suite, le feuilleton. C'est à Paris que nous passons la semaine, dans les allées d'un magasin qui fête ses 140 ans cette année. Il s'appelle le Bazar d'électricité, temple de l'ampoule. Avec 5000 références, on a pu l'entendre dans l'épisode d'hier. Mais dans cette boutique qui a résisté à toutes les crises, il y a aussi un atelier réparation avec des experts capables de ressusciter les plus vieux luminaires ou même de transformer n'importe quel objet en lampe. Et c'est Alexis Morel qui nous le fait découvrir.
Quelle est la taille de votre fil?
Le fil est gros ou pas?
Non, c'est un fil plat.
D'accord, c'est un fil plat, ça passe.
On peut l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans, parce que...
C'est un interrupteur avec...
Non, mais j'ai bien en face les vis et tout ça, parce qu'on en avait acheté un, il était tout brinque-ballant.
Ah non, mais ici, pas ici.
Ici. C'est... Non,
mais ici, c'est pas brinque-ballant. Ben, voilà. C'est pour ça que vous êtes venue ici, madame. Parce que c'est pas brinque-ballant. Voilà. Alors moi je m'appelle Cyril, je viens d'arriver au bazar d'électricité pour être au poste de responsable du rayon matériel et dépannage. Mais là on est alors dans l'atelier réparation. On a des cartons partout avec plein de références, avec on a je sais pas combien de pièces en stock, en référence. Combien? Plus de 1000? Ah non, moi je dirais même plus de 10 000 ou 20 000 pièces. Alors ça peut être des petites pièces mécaniques, des petites pièces électriques, des bouts de fil qu'on va en mettre, pour équiper les lustres. Ça a de la pile au variateur, au transfo, à la douille, à la petite vis qu'on trouve pas, qui est spéciale pour telle lampe. Soit les gens nous amènent une lampe, donc c'est des réparations courantes, c'est moins de 10-15 minutes. Et après, si on voit que ça prend plus de temps Là, on le prend sur notre planning et il y a minimum 2 mois d'attente.
Vous avez vu, incroyable, hein.
L'équipe.
Vous avez vu.
La lumière.
C'est ça le travail. Exactement. Le travail d'équipe.
Mais il y a de tout. Après, il y a des gens, ils ont la nostalgie du produit, ils y tiennent un objet qui n'a pas de valeur, mais voilà, qui a une valeur sentimentale. Donc, des fois, ils peuvent nous amener un objet qui est insignifiant, qui ne représente rien, mais pour eux, c'est quelque chose d'important. Ils pensent que c'est le dernier endroit où on peut les sauver, quoi. Oui, on peut faire des miracles quand on peut, enfin, des miracles pour les gens. Et heureusement qu'on a Julien et Romain qui sont là.
Okay. Vous me dites ce que vous en pensez, monsieur, c'est pas mieux de mettre une douille à vis ?
Ah bah si,
ça évitera d'avoir ça.
Oui, ça évitera ça. J'ai essayé moi-même.
Allez, à bientôt.
Mais eux, ils ont toutes les pièces. C'est ça qui est fabuleux, quoi.
Ouais, on va se rapprocher. Ça vaut combien, monsieur ?
Parfait.
Parfait ? Ok. Des fois, il y a des sacrées choses. Hein. Ouais, j'ai câblé une lampe. C'est un client qui a ramené une carapace de tortue. Ouais. Carapace de tortue, et elle voulait qu'on la réélectrifie, qu'on la transforme en lampe, tout simplement. C'est un peu surprenant. C'était une petite lampe de chevet, et la cliente a été contente. Hein. Il y a des gens de partout, hein, d'Argentine, de Chine, qui viennent parce qu'on répare. Ça fait voyager.
Il y a des gens très originaux. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a ramené un fémur. Donc ils ont récupéré des os et tout, et puis il a fabriqué une espèce de petite lampe de table avec des os, quoi. Ça faisait un espèce d'assemblage avec un fémur et un bout de reste de lapin ou je sais pas quoi, c'était bizarre.
Et vous avez électrifié ça.
Ouais. Mais je veux dire, à partir du moment où vous nous ramenez une structure.
Bonjour, madame.
Qui tient à peu près la route, on peut l'électrifier et en faire une lampe, quoi, je veux dire. Moi, je m'appelle Romain et je suis dans l'équipe des réparations depuis 2018. Et j'ai réparé beaucoup, beaucoup de lampes. Peut-être dans les 40 000 lampes à réparer. Quand je bossais dans la grande surface commerciale de bricolage, c'était très tout venant, machin, quoi. Donc on peut dire que je suis passé un peu de McDo à la durée, hein, clairement.
Une semaine dans leur vie au bazar d'électricité. Suite demain de ce feuilleton signé Alexis Morel.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France. Le regard d'Éric Fotorino, du 1 Hebdo, comme chaque mercredi. Alors, on va parler, Éric, ensemble de l'Iran en guerre, mais on va remonter le temps. Vous nous ramenez près de 40 ans en arrière, dans la commune francilienne de Neufle-le-Château. Pour quelle raison ?
Pour un petit moment d'histoire, Céline, et pour essayer d'éclairer le rôle qu'a pu jouer la France dans la révolution islamique de 1979. Disons d'abord qu'avant le guide de la révolution Khamenei, le monde entier avait appris à prononcer le nom de Khomeini, tout en se familiarisant avec les mots Ayatollah et Mollah. Or, après des années d'exil en Irak, devenu gênant pour Saddam Hussein, le chef religieux fut accueilli en France par la volonté du président Giscard d'Estaing, et ce, malgré les réticences de nos services secrets qui jugeaient dangereuse sa présence sur notre sol et prônaient l'Italie ou l'Algérie comme pointute. C'est ainsi que Khomeini s'installa dans le village de Neufle-le-Château, dans les Yvelines, où vivait d'ailleurs Marguerite Duras. La propriété d'un universitaire iranien lui fut louée, et les habitants prirent l'habitude de le voir régulièrement traverser la route pour se rendre dans le verger voisin où il priait sous un pommier. Il existe d'ailleurs à Téhéran une rue Neufle-le-Château où est installée l'ambassade de France, signe que malgré lui, le village a connu une célébrité inattendue. C'est d'ailleurs ce que disait le panneau commémoratif à l'effigie de Khomeini, installé en 2017 sur le terrain où il séjournait. Ce symbole qui créa la polémique fut vandalisé en 2023 et la municipalité jugea préférable, pour ramener le calme, de le faire disparaître avec un arrêté visant à interdire tout affichage public commémorant le séjour de l'ayatollah Khomeini dans la commune.
Alors que disait le texte incriminé ?
Il était factuel, très explicite à la fois. Le nom de Neufle-le-Château est enregistré à jamais dans l'histoire des relations franco-iraniennes. Le peuple iranien se rappellera toujours l'hospitalité du peuple français et de l'accueil qui a été réservé à l'imam Khomeini, guide suprême de la révolution islamique et fondateur de la République islamique d'Iran. Et le texte de présentation se poursuivait ainsi. Au cours de son séjour de 4 mois, l'imam Khomeini, en poursuivant sa lutte par le biais de discours, d'interviews et d'enregistrements sonores, avait guidé la révolution islamique en Iran et le 11 février 1979, 10 jours après son retour triomphal à Téhéran, le monde entier fut témoin de la victoire de la révolution islamique en Iran, évidemment
victoire assez amère pour les opposants.
Et qui soutenait alors Roménie en France ?
Le climat de l'époque était différent d'aujourd'hui, car nul n'imaginait la férocité de la dictature qui allait se mettre en place. On a beaucoup dit, Céline, qu'une partie des intellectuels de gauche avait été fascinée par Roménie dans son combat contre le chat qui avait voulu son exil et dont lui voulait la chute. Il est vrai que le philosophe Michel Foucault lui apporta publiquement son soutien et se rendit ensuite plusieurs fois en Iran. En revanche, contrairement à ce qu'on lit parfois, ni Simone de Beauvoir ni Jean-Paul Sartre n'ont cautionné les idées de Roménie. Aucun voyage ni aucune déclaration sourcée et datée ne viennent soutenir la thèse du soutien d'un Sartre quasi aveugle et presque à la fin de sa vie. Il n'empêche, certains continuent de voir là le début de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, mais sans aucune preuve, il est toujours dangereux de faire parler les morts.
Merci Eric. Y a-t-il dans le 1 Hebdo cette semaine ?
Alors cette question, quelle liberté pour l'Iran, avec des analyses très approfondies de grands connaisseurs de géopolitique et de l'Iran, que sont Michel Fouché, Bernard Ourcade et Sylvain Sipel, avec une carte de référence et tout de même la poésie du grand Omar Rayam.
Eric Fotorino de C'est la France. Ah, c'est une chanson et c'est avec vous, Julien Baldacchino, votre invité et chanteur et musicien.
Armand Pénicaud, il est l'un des deux membres du groupe de pop Papouze qui vient de sortir son 5e album intitulé Papouze and Friends, avant de se lancer dans une tournée en France et même partout en Europe. Et il a choisi un groupe de rock country américain nommé Wilco et sa chanson Impossible Germany.
Je crois que c'est à cause d'une fille. En fait, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je la rejoigne à Berlin, puis à Tokyo, puis machin. Et je trouve que quand on a du désir pour quelqu'un, on cherche des signes. Et j'étais chez moi sur Spotify et du coup, j'avais adoré une chanson très connue de Wilco qui s'appelle Jésus, etc. Et je m'étais dit qu'il fallait que je digue un peu plus le groupe parce que j'aime bien faire ça le matin avant d'aller courir. J'aime bien m'informer sur un album ou un artiste. Et du coup, je me suis retrouvé au hasard cliquer sur un album vraiment qui me disait absolument rien, qui s'appelle Sky Blue Sky. Et dans cet album, la troisième chanson s'appelle Impossible Germany. Je trouve un titre très bon, parce que très intriguant. Et le truc très drôle, c'est que les deux premières paroles disent Impossible Germany, Unlikely Japan, ce qui était mes deux destinations rêvées. Donc je me suis dit que c'était marrant d'en parler.
Et ce signe que vous avez vu, il s'est confirmé. Vous avez suivi cette fille. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je vais pas parler de ma vie privée, mais pour l'instant, je suis pas allé à Berlin, non. Mais il reste peut-être l'espoir du Japon, ce qui est une destination un peu plus chouette quelque part. Possible Germany, unlikely Japan.
Regarde un peu ce qui se dit sur cette chanson. Il y a beaucoup de gens qui disent on comprend pas les paroles, on sait pas pourquoi elles sont faites, pourquoi ils placent l'Allemagne, le Japon. Peut-être qu'en fait elle a été faite pour vous, cette chanson. Est-ce que les signes qu'on reçoit...
Exactement. Ouais, ouais, je pense tout à fait comme vous et c'est pour ça que j'ai aussi choisi principalement cette chanson. Mon rapport à la musique est très lié au sens et que les grandes chansons, souvent les sens de la musique, même si elles sont très narratives, il n'y a pas un sens acté dans chaque parole. La beauté de la musique et la beauté du métier qu'on fait, c'est quand on écrit une chanson, elle va toucher différemment chaque individu. Il y a un truc métaphorique de la vie de musicien en tournée et d'un rapport relationnel impossible. Tout ça sur la métaphore d'une Seconde Guerre mondiale, parce que c'était en fait deux alliés, l'Allemagne nazie et les Japonais. This was still new to me. I wouldn't understand.
Alors c'est un album, Julien, en paroles parfois cryptiques, inspiré selon le groupe Wilco des Beatles et des Beach Boys.
Et Armand Pénicaud avoue avoir écouté en boucle après l'avoir découvert. Alors je lui ai demandé si c'était important pour lui de se plonger ainsi dans la discographie d'un groupe.
J'aimerais que ça ne soit pas important, mais c'est juste un problème d'obsession dans ma personnalité. Donc je suis complètement obsessionnel. Quand j'aime un truc, je l'écoute. Je suis plus capable d'écouter 15 fois à la suite. Et le truc que j'ai pas dit sur la chanson qui est pas mal aussi, c'est que ça finit par un solo de guitare qui est très très long. Et c'est un format qui est assez rare, c'est devenu très ringard les solos de guitare. Plus personne en a quelque chose à foutre, mais il y a quand même un truc très drôle, c'est que la finalité, vu que c'est sur la dualité de deux personnes qui n'arrivent pas forcément à communiquer et à se donner rendez-vous, Il y a ce truc génial à la fin où c'est un solo de guitare, mais c'est deux guitares en fait qui se parlent. La musique, c'est une conversation. Quand il y a une trompette qui répond à un saxophone, ça veut dire quelque chose. C'est un truc qui est au-delà de la du sens, et on peut mettre tout ce qu'on veut dans la trompette de Miles Davis. Donc c'est encore plus puissant qu'un mot.
Et si c'est au-delà du sens, ça veut dire que ce que ça va toucher directement, c'est le cœur, c'est l'émotion.
Ouais, et surtout c'est un truc qui peut être changeant du coup. La musique, c'est de la mémoire en action, donc la supériorité peut-être philosophique de la musique par rapport aux autres arts, c'est quand on entend une chanson 20 ans après l'avoir écoutée, qui avait un sens comme Cette fille, je sais quand je vais la réécouter dans 25 ans, j'espère que je serai pas mort pour la réécouter sur Dieu sait quel format, je penserai évidemment à elle. Avec mon groupe Papouze, il y a déjà des gens qui nous ont dit, on s'est rencontrés sur une de votre musique, on s'est mariés sur une de votre musique. Un mec de Corse Matin qui m'a appelé pour une interview et qui me dit qu'il met une de nos chansons à chaque fois qu'il dépasse Monaco avec sa fille. Ils ont pour tradition de mettre un de nos morceaux qui s'appelle None of This Matters Now. Et c'est une tradition familiale qui a maintenant 5 ans. Donc moi, c'est le plus grand honneur que je puisse recevoir, c'est que quelqu'un me dise un truc comme ça.
Impossible Germany de Wilco, c'était donc le choix d'Armand Pénicaud, du groupe Papouze.
Papouze a retrouvé avec ce nouvel album Papouze and Friends et en concert le 19 mars à Bordeaux, le 25 à Grenoble et le 26 à Lyon.